Et dans le vif de l'histoire, en ce 21 juin, cette question, que reste-t-il du passage de Jack Lang au ministère de la Culture? À la veille de la fête de la musique, Jack Lang a fait annoncer le regroupement de tous ses documents personnels avec ses documents ministériels aux Archives nationales, Jean Lebrun.
Pendant que paraissaient deux livres, l'un hagiographique, collection bouquin, l'autre plus critique, documentation française, et que l'hebdomadaire Le 1 titrait « Faut-il canoniser Jack Lang ?» En tout cas, avant même que le postulateur ne plaide la cause en face de l'avocat du diable, avant même qu'il ne se produise un miracle, nous avons la date qui permet déjà de célébrer le ministre perpétuel de la Culture de François Mitterrand. C'est le solstice d'été. Tout de même, depuis 82, sauf évidemment dans cas exceptionnel comme cette année, c'est une réussite républicaine que celle de la fête de la musique. Le peuple amateur de toutes les musiques promu à la même dignité est l'acteur et le spectateur des concerts qui se donnent un peu partout. Et dès lors que vous en jouez avec sérieux, passion, attention aux autres, toutes les musiques peuvent accéder à la même hauteur. Maurice Fleuret, le directeur de la musique que Jack Lang s'était choisi dans son administration de Missi Dominici, imaginait un avenir où démocratisation et création se conjoindraient. L'individu illuminé par la musique deviendrait conscience de la société.
Alors ça, c'est, disons, le côté noble de l'action de Jack Lang. Savoir-faire, certes, mais il y a le faire savoir aussi, la communication, les coups de fil aux journalistes à tout propos de la visite d'un marché quelconque à une inauguration sans grand intérêt.
Ici, Jack Lang, vous ne viendriez pas m'accompagner pour manger une soupe aux écrevisses sur le marché de X. Alors oui, ça vous agace, ça, Bruno, mais ma génération, des journalistes culturels d'autrefois, eh ben, elle a été heureuse d'être sollicitée. À l'époque, j'étais chef du service culturel d'un quotidien austère qui n'accordait pas une importance particulière à mon secteur. Eh ben, c'est bien simple. En 2 ans, j'ai doublé mes pages. À Jack Lang, les professionnels de la profession reconnaissants, sans parler de ma médaille des arts et lettres. Il m'a fait découvrir beaucoup de la France. Moi, je n'avais jamais mangé d'huître à 9h du matin sur un port avant lui. Je me souviens en revanche d'un départ, Gare de l'Est, au petit matin. Son frère avait alors des ennuis avec la justice, dont lui, Jacques, n'était en rien responsable, et la presse adverse faisait ses titres là-dessus. Et je ne me sentais pas fier d'être journaliste. L'homme que nous avions en face de nous, qui travaillait à bride abattue, ne méritait pas ce déshonneur.
Bon, il a doublé vos pages, d'accord, mais il y a eu aussi le ministre en veston rose, le ministre en col Mao, parce qu'il était venu une fois à l'Assemblée dans une veste dessinée par Mugler.
Oui, et puis le ministre qui aurait dit « Nous faisons passer la France de l'ombre à la lumière », ça c'était pendant un débat budgétaire en novembre 81. J'y étais, il n'a pas prononcé la phrase qui était inscrite dans son texte. Parfois, Jack Lang avait le sens du ridicule. Et en fait, avec le temps, l'architecture qu'il proposait a fini par provoquer un consensus. Les départements et les régions ont accepté de participer au maillage d'équipements culturels qui avait commencé avant lui, mais qu'il avait resserré. En 86, défaite de la gauche, une équipe de droite arrive au ministère. Le titulaire François Léotard va au total avaliser l'essentiel de la politique de Lang. Son secrétaire d'État, Philippe de Villiers, en revanche, non. Le créateur du Puy du Fou n'a cessé depuis de vouloir remplacer par un autre modèle nationaliste ce qu'il considère comme l'hégémonie culturelle de la gauche. Depuis, les crédits du ministère n'ont pas vraiment baissé, mais le crédit de ses successeurs, oui. Et l'intensité de l'action de son ministère, victime d'une routinisation que les incessantes réformes de cette administration voudraient corriger alors qu'elle l'aggrave. Elle en est souvent réduite, dans les dossiers qu'elle traite, cette administration, à ne faire qu'enregistrer les avis des uns et des autres. Ça s'appelle en novlangue l'activation. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Dans le 14e, la ville de Paris veut faire de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, dans cet arrondissement, un quartier nouveau, très bien. Et l'idée est venue d'y ouvrir un musée Giacometti. L'activation consiste à demander l'avis du public. Alors, le public, il préfère un restaurant solidaire ou une station de regonflage de vélo. Sous langue, on aurait dit, je sais pas moi, que Giacometti, c'était un génie, que de son atelier conservé non loin, il passait par là à pied chaque soir, rejoindre ses amis et des filles à Montparnasse. On n'aurait sans doute pas eu de station de regonflage de vélo, mais on aurait eu une exposition permanente de Giacometti. Une conviction aurait prévalu, ça s'appelait une politique culturelle, qu'animait une volonté, je voudrais même dire un volontarisme, que Jack Lang réussissait à faire partager.
Et vous recommandez donc Les années Lang, un dictionnaire critique des politiques culturelles 81-93 à la documentation française.